docteur Boyana Koulibaly, analyste du discours sur les conflits en Afrique. Elle nous rejoint via Skype de la ville de Boston dans l'État américain du Massachusetts. En direct du studio de la VOA à New York, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. En tant que correspondant dans les années 80, il a couvert nombre de conflits dans des pays africains. Et de Yaoundé, nous rejoint docteur Samuel Gembok, enseignant permanent à l'IRIC, à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Il est également directeur général de Thinking Africa Cameroun. Alors, de manière générale, Antonio Guterres note que les conflits sont devenus plus complexes, meurtriers et plus difficiles à résoudre, alors qu'un autre pays africain, le Niger, vient de connaître un coup d'État. Boyana Koulibaly, à votre avis, brièvement, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les missions de maintien de la paix actuellement, en particulier sur le continent africain?
Oui, effectivement, la proposition d'un nouvel agenda pour la paix permet de repenser l'éventuelle inefficacité de l'ONU. Tout d'abord, la présence onusienne parlant des opérations de maintien de la paix est une énorme usine bureaucratique, très coûteuse dans des pays qui sont en guerre, où les gens vivent dans des camps de déplacés, où sont victimes de violences, notamment de violences sexuelles, et leur économie locale est totalement perturbée. De plus, l'ONU fait face justement à des conséquences de l'ère numérique. C'est ce qui se passe par exemple en ce moment, ce qui s'est passé au Mali ou au Niger. Le paysage médiatique a changé. Donc aujourd'hui, il est impossible de ne pas savoir ce que l'ONU fait dans tel ou tel pays. Dans les actions de l'ONU, notamment, s'il y a une absence de bilan, une incapacité de protéger les populations, il y a un sentiment d'occupation néocoloniale ou étrangère qui est donc ressenti, car l'ONU reste une institution politique. Et donc cela peut facilement engendrer un populisme anti-onusien, des fake news, etc. Pas seulement qu'il s'agit de fake news, mais cela peut créer effectivement un sentiment anti-onusien.
Alors le chef de l'ONU admet que des conflits de longue date, toujours pas résolus, encouragés par de complexes facteurs nationaux, géopolitiques et transnationaux, ainsi qu'un décalage persistant entre les mandats et les ressources, ont mis en lumière les limites du maintien de la paix. Jean-Victor Nkolo, quelle lecture faites-vous de ces propos? Est-ce un aveu d'échec?
Avouer que les choses ne vont pas bien, à mon avis, est une démarche salvatrice. Et je crois que le secrétaire général a très bien fait d'aborder cette question, qui d'ailleurs n'est absolument pas nouvelle. Il faut simplement rappeler un certain nombre de prolégomènes de base. C'est-à-dire qu'il y a un grand malentendu. Les missions de maintien de la paix ne sont pas, dans certains pays, une imposition. Elles sont dans des pays à l'invitation de ces pays. Et ce n'est pas en tant que tel le Conseil de sécurité qui a mis fin à la mission au Mali. C'est la demande du gouvernement malien qui a entraîné ce vote du Conseil de sécurité. En réalité, la réforme des opérations de maintien de la paix dépend en grande partie de la réforme même du système des Nations Unies, car le monde tel qu'il était au moment où les Nations Unies furent créées il y a plus de 70 ans, le Conseil de sécurité ne reflète plus ce monde aujourd'hui. Je terminerai en disant simplement qu'il faut bien comprendre ce que c'est que le maintien de la paix et il faut que nous évitions les raccourcis. Il n'y a pas de maintien de la paix quand il n'y a pas de paix à maintenir. En d'autres termes, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont venir régler au Mali ou ailleurs les questions, par exemple, de tribalisme, comme semblait le suggérer l'un des premiers intervenants, un journaliste à partir de Bamako qui se plaignait que le conflit est parti du nord vers le centre et a ouvert la voie au tribalisme. Non. Ce sont ceux qui sont impliqués dans leur propre pays, ce sont les gouvernements, c'est la société civile, c'est la gouvernance, ce sont tous ceux qui sont impliqués qui vont eux-mêmes vouloir maintenir la paix. Comme ça a été le cas au Mozambique où j'ai travaillé il y a 30 ans. En réalité, quand il n'y a pas de paix à garder, les Nations Unies ne peuvent pas garder cette paix. C'est donc d'abord et surtout une question nationale, une question de souveraineté, une question de survie des États.
C'est ce qu'a dit également le patron de l'ONU. De nombreux dirigeants africains sont réunis à partir de ce même jeudi à Saint-Pétersbourg pour un sommet convié par le président russe Vladimir Poutine. Samuel Gembok, comment la montée des puissances telles que la Russie et la Chine, notamment en Afrique, impacte-t-elle la dynamique des opérations de maintien de la paix?
Je pense que les querelles en termes d'intérêts stratégiques des gouvernements vide complètement le fonds qu'avaient mis en place les Nations Unies pour assurer la sécurité et la paix internationale. Je pense qu'au moment où la Russie monte en puissance, ainsi que la Chine, il y a d'ailleurs des exemples qui le démontrent sur le continent, nous n'avons qu'à voir au Soudan du Sud, où les processus de négociation sont parfois bloqués, juste parce que d'un côté, l'on a les Américains qui émettent leur veto pour que le processus ne s'accélère pas, ou alors, quand ça ne les arrange pas, c'est les Chinois ou les Russes qui mettent également leur veto. Donc, on voit très bien que le concept de sécurité est pris en otage par des querelles de leadership, par des querelles d'intérêts stratégiques entre les États, par la volonté des puissances de contrôler l'ordre international. Et donc, malheureusement, les États africains, eux, ils n'ont pas voix au chapitre et subissent les vents contraires de toutes ces querelles.
Boyana Koulibaly, quelle a été l'évolution des missions de maintien de la paix en Afrique au cours de la dernière décennie? Je sais que vous étudiez le cas de la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo.
Absolument. La MONUSCO est un exemple justement où une réévaluation du fonctionnement doit être prise en compte des opérations de maintien de la paix. Cette mission a été créée il y a 25 ans, donc il faut comprendre que l'ONU est présente en RDC depuis presque 3 décennies. Elle est arrivée dans un contexte où il y avait moins de 20 groupes armés. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, il y a 266 groupes armés, on est 15 fois plus. Et 20 milliards de dollars au moins ont été dépensés. Nous avons aujourd'hui 19 000 casques bleus présents sur place. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le bilan de cette opération est positif? Au contraire, il y a eu une exacerbation de l'insécurité en RDC. Donc il est important de réévaluer et de se poser des questions, je pense, en prenant en compte certaines dynamiques locales ou certaines dynamiques contextuelles qui ont amené à ce manque de résultats.
Alors, le secrétaire général de l'ONU croit que la fragmentation des conflits qui impliquent souvent des groupes armés non étatiques, des gangs criminels, des terroristes et des opportunistes a augmenté le besoin pour des opérations d'imposition de la paix multinationale, de contre-terrorisme et anti-insurgés. Jean-Victor Nkolo, comment l'ONU aborde-t-elle la complexité croissante des conflits, notamment avec l'implication de multiples acteurs non étatiques, au moment où il est beaucoup question de la présence des mercenaires russes de Wagner en Afrique? Est-ce que vous pouvez un mot rapide sur ce dernier coup d'État en date en Afrique perpétré par des militaires au Niger?
Je voudrais tout simplement, et sur un plan strictement personnel, dire que les coups d'État en Afrique, c'est une véritable tristesse et que ça nous fait reculer de plusieurs décennies. Les enfants de l'Afrique et les petits-enfants de l'Afrique devraient pouvoir se souvenir des grands noms d'Africains comme Nelson Mandela ou Kwame Nkrumah. Ça m'étonnerait qu'à l'avenir, ils se souviennent d'hommes en treillis qui sont arrivés très vite, parfois on ne sait pas exactement d'où, et qui ont aussitôt disparu après avoir peut-être laissé derrière eux un certain nombre de misères. Donc les coups d'État ne sont pas une chose que personnellement je peux approuver. Pour ce qui est du maintien de la paix, je voudrais simplement dire qu'il ne faudrait peut-être pas que nous quittions cette émission sans laisser comprendre à nos auditeurs que les opérations de maintien de la paix ne sont pas toujours des échecs. C'est toujours des défis, c'est toujours des difficultés. Je vous rappelle qu'au Mozambique, il y a eu une guerre civile terrible entre la RENAMO et le FRELIMO, mais que les deux parties ont accepté de s'entendre sous l'égide de Sant'Egidio, que l'ONU est arrivée parce qu'il y avait une paix à garder, que Afonso Dhlakama est revenu à Maputo, qu'on lui a donné une résidence, en l'occurrence celle du représentant de l'Union européenne, et que les Mozambicains ont pu faire la paix. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes au Mozambique sont réglés, mais ça veut dire que voilà une mission de maintien de la paix qui a permis des élections et qui a permis le retour des réfugiés. Idem au Libéria où j'ai travaillé, j'étais présent lors de la première conférence des chefs d'État collégiaux qui se sont rassemblés dans une salle avec Aladji Kroma, Georges Bollé, François Massaquoi, Charles Taylor et consorts. Ça n'a peut-être pas été déterminant ou permanent, mais en tout cas, le Libéria a eu un petit répit. Et aujourd'hui, le Libéria est une démocratie qui va bon en ballant, qui va essayer de faire son chemin. J'étais aussi dans une mission en Côte d'Ivoire où, malgré les problèmes, quand même, il y a eu une mission de la paix qui a permis un certain nombre de choses. Il y a encore des blessures qui vont, je l'espère et je le sais, être guéries parce que le peuple ivoirien est un grand peuple. Mais il faut dire qu'ici et là, les missions de la paix, quand elles ont su, comme le suggère le secrétaire général, quand elles ont su définir la multiplicité des défis, y compris ceux qui sont les plus récents, comme le djihadisme ou encore les questions liées au changement climatique qui aggravent l'irrédentisme et les problèmes dans la région du lac Tchad, quand on se définir tous ces problèmes et que le Conseil de sécurité donne les moyens et que d'abord et surtout les États eux-mêmes, les participants nationaux sont preneurs et engagés de manière sincère, eh bien les missions de maintien de la paix marchent.
Oui. Alors des soldats de la paix ont fait l'objet d'enquêtes après par exemple des allégations de viol sur des femmes et des filles au Soudan, en RD Congo et en République centrafricaine, pays où ils ont également été accusés de contrebande d'or et de diamants. Des détracteurs attribuent le rejet de certaines troupes onusiennes à de tels agissements. Samuel Genbok, brièvement, comment l'ONU s'assure-t-elle que ces opérations de maintien de la paix respectent les droits de l'homme et la dignité des populations locales? Quelles sont les mesures qu'elle a prises pour lutter contre les abus commis par certains casques bleus?
Je pense que les Nations Unies font le nécessaire pour assurer quand même que les opérations de maintien de la paix se fassent à l'abri des écueils comme des viols. Il y a des codes de conduite qui sont mis en place, il y a des formations au maintien de la paix, au respect des droits humains, mais la capacité de contrôle des contingents qui sont directement rattachés à la chaîne de commandement nationale fait en sorte que les Nations Unies n'ont vraiment pas la main sur l'exercice sur le terrain des casques bleus. Et donc, seuls les rapports des organisations de la société civile peuvent alerter sur les abus commis par les casques bleus. Donc, on peut indiquer que les Nations Unies ont bien la volonté de contrôler les opérations de maintien de la paix, leur efficacité et le respect des codes de conduite. Mais sur le terrain, les contingents restent rattachés aux ordres qui viennent de leurs pays respectifs.
Mmh. Un commentaire tiré de la page Facebook de VOA Afrique, Gertrude Zizanier de Rouyigui au Burundi, elle écrit « En tant que femme, je trouve que les missions dites de maintien de la paix ne sont là que pour fragiliser les systèmes qui sont de plus en plus corrompus. Ce n'est que du business qui ne profite qu'à ceux qui l'ont créé. Pourquoi traiter les conséquences au lieu de résoudre les vraies causes des conflits. » Et voilà, c'est l'avis de Gertrude Zizani de Burundi. Voilà, chers amis fidèles de la VOA, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum continue après cette courte pause.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Retour avec vous dans Washington Forum que vous propose VOA Afrique. Le chef de l'ONU appelle à réfléchir à l'avenir des opérations de maintien de la paix, soulignant leurs limites dans un monde de plus en plus fragmenté et marqué par une évolution des conflits. Antonio Guterres tient tout de même à dire que les casques bleus ont contribué à sauver des millions de vies, notamment en aidant à préserver des cessez-le-feu et en protégeant des civils des violences. C'est le sujet que nous abordons ce jeudi 27 juillet 2021 semaine 3 avec nos invités. Nous les retrouvons d'emblée, Dr Boyana Koulibaly, chercheur sur la prévention contre le génocide en Afrique. Son travail porte notamment sur la gestion des conflits par l'ONU, en RD Congo en particulier. Elle nous rejoint via Skype de la ville de Boston, dans l'État américain du Massachusetts. Également avec nous, de Yaoundé au Cameroun, Dr Samuel Gembok, enseignant permanent à l'IRIC, également enseignant associé à l'IRIS, l'Institut français des relations internationales et stratégiques. Et en direct de New York, Jean-Victor Nkolo, qui a travaillé pendant longtemps à l'ONU. Il a notamment été le porte-parole de la mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée. Antonio Guterres évoque des modèles plus souples en matière d'opérations de maintien de la paix avec des stratégies de sortie appropriées. Boyana Koulibaly, de quelle manière la collaboration entre l'ONU et les organisations régionales comme l'Union africaine peut-elle être améliorée pour assurer une paix durable en Afrique?
Je pense qu'il est très important que justement le Conseil de sécurité puisse collaborer avec les organisations régionales. Il est important qu'on s'intéresse justement à des possibilités de développer ce qu'on appelle les homegrown solutions. Les organisations régionales sont beaucoup plus à même de comprendre les contextes, de parler les mêmes langues et de pouvoir agir aussi dans leurs intérêts, puisqu'ils ont des intérêts directs à résoudre des problèmes qui sont liés aux situations d'insécurité. Un exemple d'amélioration serait de financer davantage le Fonds pour la paix de l'Union africaine qui est sous-financé. Je pense qu'il faut mettre les moyens, il faut investir davantage pour permettre à ce que cette collaboration soit beaucoup plus effective. On le voit justement à l'est de la RDC où on a plusieurs... on a presque un embouteillage d'interventions entre la MONUSCO, le AC, le SADC, etc. Donc je pense qu'il est important de coordonner davantage avec plus de moyens et de pouvoir chercher des solutions avec les organismes locaux, les organisations locales.
Oui, alors justement pour pallier les limites de son organisation, le patron de l'ONU encourage les organisations régionales ou sous-régionales à déployer de leur côté des missions d'imposition de la paix, en particulier en Afrique. La situation justifie que l'on mette en place des opérations de nouvelle génération, à savoir des missions d'imposition de la paix et des opérations antiterroristes qui seraient dirigées par des pays africains avec un mandat du Conseil de sécurité, dit-il. Jean-Victor Nkolo, est-ce que c'est cela la vision actuelle de l'ONU concernant le futur de ces opérations de maintien de la paix?
Eh bien, quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et le secrétaire général a eu tout à fait raison d'aborder cette optique. Regardez ce qui s'est passé au Niger. 24 ou 48 heures avant, le président en exercice de la CEDEAO, le président nigérian Bola Tinubu, évoquait encore la possibilité avec son partenaire de la Guinée-Bissau de la mise en place d'une opération qui pourrait démanteler ou prévenir les coups d'État. Mais il se trouve que dans le cas du Niger, cette discussion a eu lieu un peu tard ou trop tard ou pas assez vite. Eh bien, je rappelle que si on se souvient de là où on vient, en Côte d'Ivoire, au Libéria et dans d'autres pays, et il y a des forces comme les Comogues qui avaient comme tête de proue le Nigeria, qui ont intervenu et qui ont réussi à imposer une certaine paix. Mais la véritable question, c'est de savoir si les nationaux, et comme le disait tout à l'heure ma sœur Koulibaly, elle avait tout à fait raison, l'implication des organisations régionales, des organisations sous-régionales, mais d'abord et avant tout, je le répète une fois de plus, des nationaux. Car si les nationaux jouent avec la paix, s'il n'y a pas de paix entre ces nationaux, il n'y aura pas de paix à garder. En d'autres termes, ce ne sont pas les Nations Unies qui viendront faire la paix dans un pays, mais les Nations Unies viendront apporter leur contribution. Et cette contribution, je dois le dire, j'ai eu le privilège de servir dans 10 missions de maintien de la paix, dont 8 en Afrique, une en Europe, dans les Balkans et une dans les Caraïbes. Je dois dire que c'est parfois avec un prix très élevé, qui n'est pas seulement une question d'argent. Beaucoup d'ONUSiens de casque bleu tombent sur le champ d'honneur. Il y a beaucoup de blessés, il y a des morts, il y a beaucoup
beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de gens qui quittent leur famille, qui vont loin pour aller servir. Et ça, on l'oublie assez souvent. Donc, les missions de maintien de la paix seront de moins en moins utiles quand les nationaux vont voir dans la paix le premier investissement pour leur futur.
Et vous faites bien de le rappeler. Samuel Gembok, quels enseignements l'ONU a-t-elle tiré des missions antérieures pour améliorer les opérations actuelles et futures, brièvement ? Nous avons un petit souci de connexion avec Samuel Gembok. Nous allons essayer de rétablir cela. Alors, Boyana Koulibaly, comment l'ONU prévoit-elle d'adapter ses opérations face aux défis qui peuvent exacerber les conflits ?
Je vais répondre à cette question par un exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en RDC, il y a 266 groupes armés. Le principal problème, c'est de comprendre les causes profondes de la crise. Et je pense que si l'ONU veut contribuer justement à ce que mon collègue disait par rapport à l'importance d'une résolution régionale des problèmes, il faut penser à ces causes profondes. En ce qui concerne la RDC, il y a la présence d'une idéologie génocidaire dans la région des Grands Lacs qui date depuis la colonisation belge et qui a mené à une des plus grandes catastrophes humaines en 1994, à savoir le génocide contre les Tutsis au Rwanda. L'ONU avec la MONUSCO ne peut pas aujourd'hui ignorer la présence d'un groupe armé comme le FDLR par exemple, qui a été constitué par les génocidaires de 1994 et dont l'objectif est de finir le projet d'extermination des Tutsis. Et pour finir, le FDLR est aujourd'hui financé et soutenu par l'État congolais, comme l'État congolais d'ailleurs l'a confirmé. La MONUSCO par contre fournit elle un soutien financier et opérationnel à l'armée congolaise. Donc il s'agit ici non seulement d'un problème d'exacerbation d'insécurité, mais presque d'une situation quasi de complicité avec un groupe à idéologie génocidaire qui agit et qui est soutenu par l'État congolais.
Oui, alors les propositions d'Antonio Guterres s'inscrivent dans le cadre d'une série de documents préparés pour le sommet de l'avenir, prévu en 2024. Il n'a pas manqué non plus de rappeler que l'an dernier a vu le nombre le plus élevé de morts liés à des conflits depuis trois décennies. Jean-Victor Nkolo, très rapidement, si vous pouvez, quelles sont donc les attentes pour les missions de paix de l'ONU dans les années à venir, notamment en Afrique ?
Peut-être des missions plus petites, plus ciblées, plus efficaces, mieux équipées et mieux préparées dans leur déploiement, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Je voudrais simplement revenir à la question du Congo, où j'ai eu la chance de travailler deux fois, en 1994, mais aussi en 2004-2005, pour dire qu'il y a une dimension humaine qu'on ne peut pas négliger. Il ne s'agit pas seulement de se borner à essayer de mettre en route des résolutions des Nations Unies ou de confier à des organisations régionales ou sous-régionales des solutions ou des pseudo-solutions. La vérité, c'est que dans la partie, dans l'est du Congo, dans cette partie du pays, il y a beaucoup de choses très compliquées. Il y a des croisements ethniques et des inimitiés qui sont très vieilles, comme le disait Mme Koulibaly, mais qu'il faut résoudre aussi sur le plan humain. Vous allez à Rutshuru, Wali Kale, vous allez du côté du Mont Mugunga et consorts, dans tout ce magma d'ethnie, de migration, de diverses langues, etc., ça peut être très compliqué et ça peut demander parfois des connaissances et une approche complètement anthropologique. Et c'est là où vient la question de la gouvernance. Et s'il y a une bonne gouvernance dans la capitale, qui parfois n'a pas nécessairement tout l'impact nécessaire que l'on croit, eh bien ça va être difficile. Donc il y a tout un enjeu humain, régional, sous-régional et sur le terrain, qu'il faut absolument mettre en place. Mais d'abord, ce sont les frères et les sœurs des gens qui sont dans...
Malheureusement, le temps nous fait défaut.
Ceux qui sont tout ici,
merci
beaucoup.
Mais je tiens à donner ce dernier message à Facebook de Trésor Kalonji de la RD Congo. Ces missions sont budgétivores, inefficaces et complices de la continuité de massacres. Aucune d'entre elles n'a réussi, surtout en Afrique et plus précisément dans mon pays, le Congo Kinshasa. C'est Trésor Kalonji de la RD Congo qui le dit. Et voilà, Washington Forum prend fin ici. Merci à nos invités, Boyana Koulibaly, Jean-Victor Nkolo et Samuel Gembok. Un clin d'œil à toutes nos radios et télépartenaires et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide avec vous. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de la VOA. Merci beaucoup, take care.